Le service protestant. Une émission de la Fédération protestante de France.
Bonjour, Jean-Luc Gadreau avec vous sur France Culture. Ensemble donc jusqu'à 9h pour le service protestant, suivi pour ce premier dimanche du mois par Culture protestante. Je reçois ce dimanche 1er novembre Florence Blondon, qui est pasteur de l'église protestante unie de France et en poste actuellement au Temple de l'Étoile à Paris et qui nous conduira donc dans un temps de culte. Elle sera accompagnée d'une comédienne, Raphaël Cambray, qui prêtera sa voix à quelques lectures. Bonjour Florence, bonjour Raphaël.
Bonjour.
Alors c'est aujourd'hui la fête de la Toussaint. Que représente ce jour pour vous, pasteur Florence Blondon, et plus généralement d'ailleurs chez les protestants ?
Oui, nous sommes le 1er novembre et en ce week-end, certains d'entre nous se rendent dans les cimetières, d'autres au contraire s'y refusent. Il est vrai que cette fête ne fait pas du tout partie de la culture ni même de la spiritualité protestante. Et d'ailleurs, si aujourd'hui il y a un culte, ce n'est pas en raison de la Toussaint, mais bien parce que nous sommes dimanche et que chaque dimanche nous célébrons la résurrection, c'est-à-dire que nous célébrons la vie. D'autre part, les protestants se sont toujours méfiés des rites et de tout ce qui pourrait se rapprocher d'une sorte de culte des morts, en s'appuyant sur cette célèbre phrase qui a été prononcée par Jésus « Suis-moi et laisse les morts ensevelir les morts ».
Peut-on se baser sur un simple verset d'ailleurs pour dicter une conduite ou nous inscrire dans une uniformité ? C'est valable là, mais peut-être aussi pour d'autres sujets ?
Oui, j'ose croire que les Écritures sont bien autrement plus complexes et que cette complexité, cette profondeur nous renvoie à la complexité même de notre existence. Elle nous invite en premier à multiplier les sens, des sens qui, bien loin de s'opposer, eh bien viennent s'enrichir les uns les autres. Bien sûr, nous pouvons entendre l'injonction de Jésus à laisser nos morts et nous tourner vers la vie. D'ailleurs, au matin de Pâques, Marie-Madeleine va tourner le dos au tombeau pour pouvoir accueillir la puissance de la résurrection. Jésus n'a de cesse de nous orienter vers la vie, c'est-à-dire vers l'avenir. Et si ici la réponse de Jésus nous semble scandaleuse, la mort elle-même est scandaleuse. Et au scandale de la mort, Jésus vient substituer la vie. Lorsque Jésus énonce cette phrase, cela va encore plus loin. Car à vrai dire, les morts ne peuvent enterrer les morts, mais nous pouvons ensevelir tout ce qui est mort en nous, ce qui nous retient de suivre le Christ, ce qui nous empêche de nous tourner résolument vers la vie. Et si finalement, le respect de ceux qui nous ont quittés, de ceux que nous avons chéris, n'était pas d'aller sur leur tombe, mais bien de témoigner en parole et en acte de l'amour que nous avons reçu, que nous avons partagé, et de transmettre cet amour, et ainsi de les rendre vivants.
Mais alors, qu'est-ce que l'on fait de nos émotions ?
Eh bien, cela ne gomme pas notre chagrin, mais cela donne un sens à ce qui peut nous paraître insensé. Et nos deuils, nos peines, sont présents tout au long des textes bibliques, dans les psaumes et également dans les évangiles. Il y a dans la Bible un poème qui est précisément le texte de ce jour qui sait chanter la vie et nous rappelle toute notre humanité.
Thank you.
Nous lisons dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 5, les versets 1 à 12. Voyant les foules, Jésus monte sur la montagne, il s'assoit, et ses disciples viennent à lui. Puis il prend la parole et se met à les instruire. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui sont compatissants, car ils obtiendront compassion. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous lorsqu'on vous insulte, qu'on vous persécute, et qu'on répand faussement sur vous toutes sortes de méchancetés à cause de moi. Réjouissez-vous, et soyez transportés d'allégresse, parce que votre récompense est grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés.
Alors là, c'est vrai que nous sommes face à un texte justement qui semble nous réconcilier d'une certaine façon avec les émotions humaines, les sentiments qui naissent naturellement en nous, suivant les circonstances bien évidemment. Alors, pasteur Florence Blondon, eh bien nous vous écoutons nous en parler un peu plus maintenant.
Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Peut-être est-ce une phrase importante en ce jour de la Toussaint. Et oui, Jésus prend donc en compte nos deuils, nos souffrances. Cela adoucit la première injonction qui nous demande de tout quitter, y compris nos morts, pour le suivre. Et ce texte, que l'on appelle communément les Béatitudes, nous inscrit donc dans un chemin de vie. Il intervient à un moment crucial du ministère de Jésus. En effet, Jésus monte sur une montagne. Il va redéfinir, ou plutôt, pour reprendre sa formulation, accomplir la loi. Mais ces béatitudes qui ouvrent le discours n'appartiennent absolument pas au langage juridique. Pourtant, c'est bien ce poème qui est le porche d'entrée de ce sermon. Ce n'est pas si étonnant, car déjà, dans le Premier Testament, lorsque Dieu énonce les 10 paroles, il commence par se présenter. Il nous dit « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Ainsi la libération précède la loi, comme pour nous indiquer que les paroles que Dieu nous adresse ne sont pas là pour nous asservir, mais bien au contraire pour nous rendre libres. Jésus s'inscrit dans cette tradition, la promesse précède la loi. Ce texte est appelé les Béatitudes, car il débute par « heureux ». 9 fois « heureux », pourtant ce bonheur est bien paradoxal. Il s'oppose à toutes nos logiques humaines. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais m'arrêter sur ce mot « heureux » qui pointe toute la difficulté de la traduction. Si le Nouveau Testament est écrit en grec, il est imprégné de la culture, des formules, du vocabulaire qui nous viennent de l'hébreu. Et ce « heureux », nous le trouvons déjà en ouverture des psaumes. « Heureux l'homme qui ne marche pas, selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite sa loi jour et nuit. » Mais l'hébreu est une langue d'une richesse infinie. Chaque mot porte plusieurs sens. Chaque mot est toujours pluriel. Ainsi, « asher », que l'on traduit le plus souvent par « heureux », a bien le sens du bonheur, de la joie, de l'allégresse, mais il porte aussi le sens de la marche. Et enfin, on peut également le rattacher à une autre racine qui signifie « être droit, être juste ». D'ailleurs, André Chouraki, dans sa Bible, va le traduire par « en marche ».« En marche, les pauvres en esprit, le royaume des cieux est à eux ». Cela nous ouvre d'ailleurs à une toute autre perspective. Il s'agit ici d'une marche positive qui nous met sur un chemin de justice, sur le chemin de Dieu. Cette justice qui d'ailleurs est si présente dans les Béatitudes. Cette mise en route nous dit qu'ici, il ne s'agit justement pas d'un bonheur béat, voire d'un discours niais qui s'adresserait à un auditoire crédule, mais bien d'une dynamique, j'irai jusqu'au terme de dynamite, car ce poème fait voler en éclats nos représentations bien trop humaines, bien trop mondaines. Il faut entendre, d'ailleurs, tous les sens simultanément, bonheur, mise en marche, juste attitude. On ne peut déclarer uniquement d'heureux ceux qui sont dans la douleur, cela relève de l'endormissement des consciences, voire de la soumission. Surtout, si l'on propose une lecture où ces joies seraient promises pour un après inconnu. Comme pour dire « Aujourd'hui tu souffres mon petit, eh bien après ta mort tu goûteras au bonheur ». Mais ici le bonheur est déjà là, même s'il n'est pas pleinement accompli. Le royaume fait déjà irruption dans notre présent. Et cette notion de mise en mouvement s'oppose à toutes les lectures infantilisantes. Au contraire, elle nous invite à prendre une part active et non à subir. Finalement, aucune traduction n'est satisfaisante. Nous ne pouvons pas tenir, avec un unique mot, à la fois l'idée de bonheur, celle de la mise en mouvement, celle de la droiture. Du coup, nous pouvons nous permettre d'oser d'autres propositions. J'en retiens une, celle d'Élian Cuvillier, qui nous propose « vivant ». En effet, ces béatitudes chantent la vie. Elles nous disent le bonheur malgré nos limites, malgré notre finitude. Tout simplement le bonheur d'être humain et d'être vivant. Si tous ces énoncés sont paradoxaux, ils s'opposent aux images conventionnelles du bonheur, ils s'ancrent dans une réalité, dans notre existence.
Est-ce que ce mot « vivant » me rappelle, moi, quelque chose ? C'était celui utilisé et mis en majuscule, d'ailleurs, dans un message d'un ami récemment, qui m'a justement profondément ému et réjoui en même temps. Alors, je m'explique. Il criait en quelque sorte sa joie de reprendre le travail. Après 10 semaines d'hospitalisation, dont une longue période en coma artificiel suite à la pandémie, et puis ensuite, plusieurs mois d'arrêt de travail. C'était un « vivant » qui exprimait donc tout à fait cela, une remise en route et à la fois le rappel d'une souffrance, peut-être d'une forme de faille dans son existence.
Et oui, nous avons tendance à l'oublier, mais nous sommes des êtres vulnérables. Nous l'omettons bien trop souvent pour nous prendre pour des dieux et oublier ainsi la réalité de notre finitude. Nous avons sans cesse la tentation de vouloir tout maîtriser. Nous aimerions tant suivre le modèle de celles et ceux qui réussissent. Nous imaginons trouver le bonheur dans les mirages, mais cela nous conduit soit à mépriser l'autre, soit à nous mépriser nous-mêmes. Les paroles de Jésus nous disent la promesse, sans jamais viser l'extraordinaire, l'inatteignable sur le plan matériel. Elles subvertissent les attendus. Si dans notre monde, les premiers ont tendance à écraser les derniers, Dieu, lui, prend soin des petits, il prend soin des rejetés. Ainsi, ces paroles viennent nous souffler que Dieu est là, présent, à nos côtés, dans notre quotidien, jusque dans nos failles, jusque dans nos douleurs. Il est notre consolation, il est notre soutien. Quelle que soit la situation qui pourrait nous enfermer, il est là pour nous libérer, pour nous mettre en marche. C'est tout le bonheur qui nous est promis, que nous soyons dans le chagrin ou bien dans le combat, que nous soyons dans le manque ou bien dans le rejet. Nous pouvons expérimenter la douceur de Dieu.
Sur France Culture, le service protestant avec ce matin la pasteur Florence Blondon qui poursuit sa réflexion autour du texte de l'Évangile selon Matthieu au chapitre 5, les versets 1 à 12.
Ces béatitudes sont à articuler avec le reste du discours de Jésus. Tout comme Moïse, Jésus monte sur la montagne, il va enseigner avant tout la loi. Précédemment, j'ai cité le psaume 1 qui commence ainsi « Heureux ou en marche ». L'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Nous entendons bien ici le lien entre la béatitude et la loi. Par ailleurs, le thème de la justice est profondément présent déjà dans les béatitudes. Mais ici, ni la loi, ni la justice ne sont des préalables au bonheur. Elles sont des promesses, ce qui change toute la perspective. En plus, Jésus n'introduit pas n'importe quelle loi. La loi qu'il va définir est une loi de l'excès. à travers des antithèses, il va se montrer d'une exigence tout à fait extrême. Il énonce des commandements qui nous semblent absolument inatteignables. Vous avez entendu qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi ». Eh bien, moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. La lecture de la loi excessive nous renvoie à un paradoxe, celui du bonheur promis. Nous sommes sous un autre horizon. C'est peut-être là que se situe l'irruption du royaume. Nous sommes au bénéfice de la promesse qui dynamise nos existences et qui nous permet de découvrir que nous avons de la valeur et que nous pouvons nous surpasser. Mais cette force n'est jamais au service de la domination. Elle est au service de l'amour jusqu'à l'extrême. C'est dans cet amour-là que se trouve la vérité du bonheur. Un bonheur pour ici, maintenant, déjà là, et pas encore. Il faut bien envisager que tous ces bonheurs promis, heureux ceux qui pleurent, heureux ceux qui ont faim et soif de justice, pourraient se transformer en apologie de la souffrance. On pourrait avoir l'impression qu'elle nous annonce toute une série d'ennuis. C'est pourtant le chemin que Dieu nous propose, et ce chemin est chemin de vie.
Mais alors, selon vous, quels sont les vrais enjeux de ces béatitudes ?
Alors, pour comprendre les enjeux des béatitudes, je souhaiterais repartir de la proposition d'Élian Cuvillier qui propose de traduire « heureux » par « vivant ». C'est dans cette nouvelle perspective que nous entendons tout le texte en nous questionnant « qu'est-ce qui peut aujourd'hui encore nous rendre vivants ?» Non pas vivants au sens biologique, et la période que nous traversons nous incite à nous questionner sur ce qu'est la vie, sur ce que cela signifie être vivant. Faut-il protéger les gens à tout prix d'un virus, c'est-à-dire protéger leur vie biologique, quitte à les isoler, quitte à les enfermer, ou bien le lien avec les autres, avec ceux que nous aimons, est-il bien plus essentiel? Ce qui peut s'exprimer autrement. Notre vie sociale, amicale, est plus importante que la biologie. D'ailleurs, cette vie-là est dépendante de nos relations. Nous sommes des êtres de relations. Et dans les béatitudes, nous découvrons les conditions d'une vie sous le regard de Dieu, d'une vie en relation avec Dieu, qui nous permet aussi d'être en relation avec les autres. Vivant ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Vivant ceux qui ont faim et soif de justice. Ainsi nous sommes vivants, malgré nos limites, malgré notre finitude, malgré notre humanité. Avec les béatitudes, Jésus va aller encore plus loin. On pourrait presque dire que nous sommes vivants grâce à notre finitude. Ce poème donne sens au non-sens, il donne sens à l'absurde. Il s'inscrit en cela dans la tradition des psaumes. Les psaumes, ce livre qui en hébreu signifie « livre des louanges » et qui pourtant est plein de cris de détresse, de plaintes, de lamentations. Et envers et contre tout, la louange va réussir à se frayer un chemin. Cette plainte que Jésus reprend en croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Cette plainte qui va perdurer dans ce psaume 22 pendant 22 versets, jusqu'au moment où tout bascule, la louange advient, elle bouleverse tout. Tu m'as répondu, je veux t'acclamer.
Personnellement, c'est vraiment ce qui m'interpelle toujours dans ces poèmes, ces chansons que sont les psaumes, des blues peut-être, dirions-nous aujourd'hui, d'une force vraiment incroyable, très dure parfois, violent même, mais avec toujours cette capacité d'une envolée positive et porteuse d'espérance malgré tout.
Tout à fait. Et dans un petit opuscule publié juste après sa mort et qui s'intitule « Vivant jusqu'à la mort », le philosophe Paul Ricoeur souligne « Seuls les endeuillés seront consolés », nous rappelant que le deuil fait partie de notre condition humaine et qu'il n'est pas sans lien avec la gaieté. Il ne s'agit bien évidemment nullement de faire l'apologie du deuil, mais nous sommes conduits à l'acceptation du manque. Ce manque qui n'est pas un non-sens. Si l'on s'intéresse aux destinataires des béatitudes, le manque est au cœur de ce qui nous rend vivants. Le manque, c'est-à-dire le désir, qui nous rend disponibles et qui nous coupe de nos tentations de toute puissance. Alors que l'on soit pauvre en esprit, que l'on soit des doux, des affligés, des assoiffés de justice, des cœurs purs, tous nous sommes dans des situations de manque. Et nous pouvons nous retrouver dans l'une ou dans l'autre de ces situations. Nous avons la promesse d'être vivants, mais cette promesse ne vient pas vraiment combler nos manques. Nous pouvons les appréhender de manière positive, car lorsque nous sommes dans le trop-plein, nous n'avons plus rien à chercher, nous n'avons plus rien à donner, plus de place pour l'autre et plus de place pour Dieu. Plus rien ne peut nous permettre d'être en marche. Nous n'avons plus la capacité de combattre, d'un combat qui vient redonner du sens, du prix à l'existence humaine. Notre texte est une mise en mouvement. Il s'inscrit et nous inscrit dans une dynamique. D'ailleurs, il progresse. Nous passons d'une situation passive à une situation active. Le mouvement des béatitudes nous projette dans la vie et nous invite à changer de statut. De victime, nous substituons celui d'acteur. Nous pouvons ainsi combattre pour un monde plus juste. C'est ce qui nous rend vivants. Nous quitterons avec la prière que Jésus enseigne dans le Sermon sur la montagne, cette prière qui unit tous les chrétiens.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation. Mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen.
Ainsi s'achève ce service protestant proposé chaque dimanche sur France Culture de 8h30 à 9h par la Fédération protestante de France. Il vous est présenté par Jean-Luc Gadreau et réalisé par Anne-Laure Chanel, avec à la prise de son ce dimanche Benjamin Vignal. Pour nous conduire ce matin, j'accueillais la pasteur Florence Blondon de l'église protestante unie de France à Paris, au temple de l'Étoile, accompagnée de Raphaël Cambray. Sur le site franceculture.fr ou celui de protestants au pluriel.org, vous pouvez réécouter cette émission, la partager bien sûr autour de vous si elle vous a fait du bien, et même télécharger le texte du jour. Je vous rappelle enfin notre adresse postale, service protestant, 47 rue de Clichy, 75 009 Paris, ainsi que celle pour les courriels communication@fédérationprotestante.org. Le service protestant est maintenant terminé, mais je vous retrouve tout de suite pour Culture protestante.